Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Un large consensus existe quand même sur la nécessité de protéger la langue française. Le projet de loi 96, piloté par le ministre Simon Jolin-Barrette, fixe des modalités. Certains y voient des mesures un peu excessives. D'autres trouvent qu'il pourrait aller plus loin. On va regarder ça avec lui ce matin. Monsieur Jolin-Barrette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, vous avez vu la manifestation en fin de semaine des membres de la communauté anglophone. Même la chef du Parti libéral, Mme Anglade, était là. Il y a quand même une crainte, puis pas juste des anglophones. Moi, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise dire, coudon, est-ce qu'on se prépare une bureaucratie linguistique qui va être d'une lourdeur et qui va venir un peu comme paralyser notre entreprise?
Non, pas du tout. Écoutez, on étend la loi 111 d'entreprise de 25 à 49 employés, justement pour faire en sorte que tous les Québécois aient le droit de travailler en français. Il y a un déclin du français à Montréal, dans la région métropolitaine de Montréal. C'est nécessaire d'agir. Puis le projet de loi, c'est vrai qu'il agit dans le domaine des affaires, dans l'angle du commerce, mais également en matière d'éducation, en matière également d'exemplarité d'État. Alors, c'était nécessaire d'agir. Puis les libéraux, pendant 15 ans, ils n'ont pas agi. Il y a eu un déclin du français. Alors, nous, on prend le taureau par les cornes, parce que si on veut assurer la pérennité du français, il fallait agir d'une façon costaude, comme on le fait dans le projet de loi.
OK. Agir parce qu'il y a déclin du français à Montréal. Mais à Montréal, c'est parce que les francophones sont partis. Il y en a, on le voit par les cartes démographiques, là, sont rendus Couronne-Nord, deuxième Couronne-Nord, Couronne-Sud, deuxième Couronne-Sud.
Non, mais c'est pas ça l'enjeu, parce que les études de l'OQLF, d'ailleurs, qui ont été cachées pendant durant des années, qui n'étaient pas publiées sous le gouvernement libéral, là, démontrent également que, oui, il y a une augmentation de l'anglais sur l'île de Montréal, l'utilisation, mais également partout au Québec, parce qu'il y a une pression sur l'ensemble de la situation linguistique, vers la bilinguisation notamment, et vers l'utilisation de l'anglais. Et M. Arcan, on n'est pas dogmatique, là. C'est nécessaire, supposons, dans les entreprises, parfois, d'utiliser l'anglais lorsqu'on a des clients à l'étranger ou à l'intérieur du Canada également. Mais il ne faut pas que systématiquement, on exige la connaissance d'une autre langue que le français pour travailler au Québec. Alors, oui, il y a un déclin du français, plus accru à Montréal, mais ça a un impact sur l'ensemble des entreprises également dans les différentes régions du Québec.
Mais comment vous allez déterminer qu'un emploi doit être ou qu'un employeur peut demander que pour un poste, ça soit bilingue? Moi, j'ai une PME. Si je suis tenté de facto de dire j'ai une vision d'exportation, je veux agrandir mon usine, j'aimerais ça que mes employés parlent anglais, qu'ils soient capables de parler anglais, même si ma langue de travail, c'est le français au bureau.
Ben écoutez, M. Arcan, est-ce que le commis comptable qui est dans le bureau en arrière a besoin de parler en anglais? Est-ce que les employés qui sont sur la chaîne de montage ont besoin de parler en anglais? Peut-être pas. Puis c'est ce qu'on dit, il faut prendre les moyens raisonnables pour éviter d'imposer une telle exigence au niveau de la maîtrise d'une autre langue que le français. Cependant, il y a des postes dans une entreprise qui vont nécessiter le bilinguisme. On n'est pas fou à temps plein, là. Écoutez, lorsque vous avez des clients à l'étranger, l'exportation, les ventes, bien entendu que pour les employeurs, il est tout à fait légitime. Mais est-ce que les Québécois ont le droit de travailler en français au Québec dans leur propre entreprise? La réponse est oui. Il faut mettre énormément d'efforts pour rappeler aux Québécois que c'est possible d'avoir du succès en français au Québec, de réussir sa carrière en français au Québec, ce qui ne signifie pas qu'on ne pourra pas exiger une autre langue, mais en fonction des circonstances.
Mais est-ce que je comprends?
Éviter d'imposer une telle exigence, puis prendre les moyens raisonnables pour dire ben, comment est-ce que je peux organiser mon entreprise pour éviter que... Tous mes employés, j'exige le bilinguisme. Écoutez, il y a eu des postes là, affichés à Montréal, sur l'île de Montréal, où est-ce qu'il y a des personnes, supposons immigrantes, qui sont des locuteurs de langue française, qui sont diplômés, qui ne réussissent pas à se trouver un emploi parce qu'on leur exige l'anglais pour des postes qu'ils ne nécessitent pas. C'est une frein à l'emploi, puis surtout dans une situation où il manque des employés présentement. Écoutez, on ne peut pas se priver de main-d'œuvre comme ça.
Ce que je comprends, c'est que chaque employeur va devoir justifier le statut linguistique de chacun des emplois.
Ce que les employeurs vont devoir faire, c'est qu'avant d'exiger un poste avec le bilinguisme, ils vont devoir regarder dans leur entreprise, est-ce que c'est nécessaire que je le fasse? Est-ce que tous les postes nécessitent la langue anglaise, ce qui normalement n'est pas le cas? Et est-ce que je peux éviter d'imposer une telle exigence? C'est pas sorcier, c'est pas une très grande exigence, mais c'est simplement de dire, ben écoutez, c'est pas systématiquement que j'exige une autre, la connaissance d'une autre langue que le français, parce que au Québec, on a le droit de travailler en français et on a le droit également de faire en sorte que le français ça soit la langue commune. C'est ça le lien. Et il faut dire que en termes d'intégration des personnes immigrantes, là, les deux facteurs les plus importants, c'est le fait d'occuper un emploi et le fait de parler la langue commune, le français. Donc, imaginez si dans le marché du travail, on envoie un signal que c'est pas le français. Mais on a un problème, on va continuer de décliner et on ne réussira pas à avoir des taux de substitution linguistique pour les personnes migrantes à hauteur de vers 90%, ce qui va assurer la pérennité de la langue française.
L'ajout de 3 cours de français au collégial anglophone, est-ce que vous avez vérifié avec les autorités en éducation? Moi, je vois des profs qui sortent publiquement pour qui disent, dans le fond, ça ne rentre pas dans le cursus, c'est pas faisable, on ne sait pas sur quelle planète il vit.
Bien, il y aura des ajustements à faire avec le règlement sur les études, effectivement. Puis je travaille en collaboration avec ma collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur, et ça a été validé avec le ministère. Et là, il faut bien comprendre, M. Arcand, on parle de 3 cours en français pour les allophones ou les francophones et de 3 cours de français pour les anglophones, parce que durant l'étude du projet de loi 96, ce qui a été démontré, là, c'est que les jeunes anglophones n'avaient pas de maîtrise adéquate du français pour réussir à s'intégrer pleinement sur le marché du travail québécois, d'avoir les outils linguistiques pour participer pleinement en français au marché du travail, à la société québécoise. Et c'est ce que ça a démontré. Là, écoutez, les cégeps anglophones sont venus nous dire quand on reçoit nos étudiants du high school, ils n'ont pas une bonne maîtrise du français. Alors, ce qu'on fait avec les 3 cours de français, c'est qu'on les outille justement pour développer leurs compétences langagières. Et l'autre point, c'est qu'on crée Francisation Québec parce que il y a beaucoup de personnes issues de la communauté d'expression anglaise partout en région au Québec qui veulent avoir des meilleures compétences linguistiques en français. Ils veulent pouvoir accéder à des cours de français. C'est ce qu'on va faire avec Francisation Québec. Dans le fond, on donne les outils, l'État donne les outils aux citoyens pour mieux maîtriser le français.
Le paradoxe un peu, si c'est un paradoxe, c'est que les anglophones maîtrisent pas assez le français, puis il y a bien des parents anglophones qui aimeraient que leurs enfants maîtrisent plus l'anglais pour avoir de meilleures chances pour une carrière à l'étranger, pour grandir dans une entreprise. On comprend que la loi 101, ça a mis un socle, puis que là, il faut protéger la langue française. Mais en même temps, il y a cette volonté des Québécois, puis je pense pas me tromper quand je dis ça, de voir leurs enfants avoir des capacités en anglais comme langue seconde, puis que les anglophones apprennent aussi le français. Les allophones sont les mieux placés. Ils parlent 3 langues habituellement.
Ah ben oui, M. Arcand, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'enjeu. Le fait que les individus parlent 2, 3, 4, 5 langues, c'est une richesse, c'est un avantage. Mais au Québec, il faut envoyer un signal très clair que la langue commune et la langue officielle, c'est le français. Il faut mettre fin au bilinguisme systématique de l'État québécois. Sinon, ça sera toujours plus simple juste de fonctionner en anglais. Et c'est ce qui arrive également avec le débat sur l'immigration. À partir du moment où l'État accueille d'une façon bilingue, on se retrouve dans une situation où on pousse les locuteurs, les personnes immigrantes, à choisir l'anglais plutôt que de choisir le français. Alors, si on veut assurer la pérennité de la langue française, ça part par le taux de substitution linguistique vers le français. Puis la langue française, il faut arrêter de voir ça comme un obstacle, comme un échec aussi. Il faut être fier de parler français au Québec, il faut être fier d'avoir cette spécificité-là. Et le projet de loi 96 vise justement à protéger la langue, mais aussi à assurer comme socle commun la langue française dans la langue publique, dans la langue commune, ce qui n'empêche pas les individus d'avoir, de maîtriser plusieurs autres langues. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là.
Vous êtes le ministre de la Justice. J'ai 2 ou 3 questions sur d'autres dossiers. D'abord, l'accès à la justice, c'est fondamental. J'ai vu le documentaire de Pierre Craig, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, qui mettait en lumière la difficulté d'un citoyen d'aller se battre devant les tribunaux. Ça coûte de plus en plus cher. On fait face à des délais, il y a des procédures, il y a des documents. La justice n'est pas équitable à la base au Québec. L'accès au système de justice.
Vous avez raison, il y a des défis importants en matière d'accès à la justice. C'est pour ça que j'ai déposé 2 projets de loi là, au cours de la dernière année et demie. Le premier, le projet de loi 75 sur les cliniques juridiques universitaires. On était le seul endroit au Canada où les étudiants en droit ne pouvaient pas donner des conseils et des avis juridiques. Ça, on a changé ça. Même chose, il y a environ un mois, j'ai déposé le projet de loi 34 pour permettre, dans le cadre des OBNL, des organismes à but non lucratif, là, les cliniques juridiques, supposons comme du Mylan, qui puissent donner des conseils aussi et des avis juridiques aux citoyens à faible coût ou gratuitement. Parce que un des éléments qui était soulevé dans le reportage de M. Craig, c'était justement quand vous alliez dans un centre de justice de proximité, les avocats qui étaient là, qui sont notamment rémunérés par l'État par le biais de subventions, faisaient juste de l'information juridique. Or, on sait que pour beaucoup de Québécois, ça représente un frein, puis ils n'ont pas nécessairement les moyens d'aller voir un avocat. Donc, moi, mon objectif avec ce projet de loi-là, que je souhaite qu'il soit adopté d'ici la fin de la session, là, justement faire en sorte qu'ils puissent donner des conseils, des avis pour que les gens soient mieux renseignés sur leurs droits, sur leurs obligations.
Est-ce que le barreau du Québec est d'accord avec ça? Parce qu'eux s'opposaient à ça.
Sur le projet de loi 34, le barreau appuie le gouvernement du Québec. J'ai d'ailleurs fait une conférence de presse avec la bâtonnière ainsi que la présidente de la Chambre des notaires. Donc, j'ai réussi à rallier tout le monde, M. Arcand.
OK, ça veut dire qu'un Québécois va pouvoir obtenir un véritable avis juridique à faible coût ou sans payer?
Oui.
Qu'est-ce que
Il faut que le projet de loi soit adopté d'ici la fin de la session. Alors, je compte sur la collaboration des oppositions. Vous savez, il nous reste 3 semaines. Alors, on peut l'adopter.
OK, mais vous avez bon espoir de l'adopter.
Bien, je crois que ça va changer l'accessibilité à la justice. Ça va beaucoup l'améliorer pour nombreux Québécois. Alors, ça devrait être adopté d'ici la fin de la session. Mais à partir du moment où je vous dis ça, c'est plus dans mes mains.
OK. L'autre question qui revient, on parle de problèmes dans certains palais de justice à travers le Québec où on manque de main-d'œuvre, des postes non comblés, des postes où il manque dans différents types d'emplois, greffiers, greffières, etc., etc. Est-ce qu'il y a un enjeu de main-d'œuvre dans le système de justice?
La réponse à cette question-là, c'est oui. Il y a une difficulté d'attractivité également. Et puis, on travaille avec le Conseil du Trésor présentement pour revoir la rémunération notamment. C'est prioritaire. Vous savez, l'État, c'est un service régalien de l'État, donc la justice doit être rendue partout sur le territoire québécois, mais je ne cacherai pas effectivement qu'il y a des enjeux relativement aux échelles salariales, relativement à l'attractivité partout au Québec.
Puis est-ce que ça a un impact sur l'accès à la justice puis la durée des procédures? Donc, est-ce qu'il y a des causes de reporter à cause de ça?
Non, pas actuellement, mais bien entendu, on est dans une situation qui est tout de même difficile, alors il faut continuer de travailler à trouver des solutions. Vous savez, le gouvernement du Québec n'est pas différent des autres employeurs, ça représente des défis, mais pour nous, il faut que justice puisse être rendue, mais il y a la question des délais aussi. Il faut, et c'est ce sur quoi je suis en train de travailler présentement aussi, il faut alléger la procédure pour les citoyens québécois devant la justice. Vous savez, la numérisation, la pandémie dans le domaine de la justice a aidé parce que ça a permis au système de justice de faire un grand bond en avant avec la technologie, où est-ce qu'il y avait beaucoup de réticence dans le système de justice, donc ça nous a aidé, mais il faut continuer à améliorer l'efficacité dans nos palais de justice. Vous savez, parfois, on se retrouve comme si on était au 20e siècle là, dans nos palais de justice. Alors, on est en train de moderniser tout ça, mais bien entendu, ça prend de la main d'œuvre, mais il faut que tous les acteurs du système de justice contribuent à cette modernisation-là, puis je suis en train de travailler là-dessus pour fédérer tout le monde pour aller dans la bonne direction.
Dites-moi donc, est-ce qu'on manque de juges au Québec?
Écoutez, il y a beaucoup de juges. D'ailleurs, on passe à 319 juges au Québec, à la Cour du Québec notamment, qui sont sous la juridiction du gouvernement du Québec. Alors, je crois qu'il y a suffisamment de juges pour répondre aux besoins des justiciables.
Il manque, je veux dire, de main-d'œuvre pour entourer, équiper les cours de justice.
Ben, en fait, c'est un défi, l'attractivité, notamment au niveau des greffiers, des huissiers audienciers, des adjointes à la magistrature, effectivement.
OK. Comment ça va, vous, puis la juge en chef, Mme Rondeau? Je sais que les relations étaient pas mal tendues sur, justement, la question des juges bilingues.
Ben écoutez, moi, je suis pas tendu du tout. Mon rôle en tant que ministre de la Justice, M. Arcand, c'est de faire en sorte que le système de justice fonctionne, c'est de faire en sorte également, et peut-être vous faites référence au devoir en fin de semaine, où il y a 50 000 causes en matière criminelle et pénale qui risque de subir un arrêt Jordan si la décision unilatérale de la juge en chef n'est pas revue relativement aux assignations des juges. Vous savez, actuellement, les juges en matière criminelle et pénale siègent 2 jours et ont une journée délibérée. Le ratio décidé par la Cour va revenir à une journée d'audience, une journée délibérée. Ça nous met extrêmement à risque et ça me préoccupe extrêmement parce que on veut pas se retrouver dans une situation où on aurait l'équivalent de 2 arrêts Jordan, ce qui est le cas. Alors, j'ai prié la juge de revenir sur sa décision parce qu'en matière d'administration de la justice, on va faire face à de grands défis si cette décision unilatérale était maintenue.
Mais elle est indépendante de vous, alors vous pouvez lui faire la suggestion, elle n'est pas obligée de vous écouter.
Effectivement, c'est pas moi qui gère, Monsieur Arcand, les assignations des juges.
Mais vous avez peur qu'on se ramasse avec un autre arrêt Jordan puis la fin de procédure dans un paquet de dossiers?
Ben, le fait de réduire le nombre de jours siégés par la magistrature nous entraîne directement dans le mur, M. Arcand. Alors, moi, le barreau, la commission des services juridiques, l'aide juridique sont du même avis que le ministère de la Justice à cet effet-là, qu'on ne peut pas aller dans cette direction-là, ça va être dramatique pour le système de justice. Alors, il est primordial, M. Arcand, de revenir sur cette décision-là, aux fins, un, de l'accessibilité à la justice, mais aussi de l'efficacité de la justice. On ne peut pas se permettre au Québec de se retrouver dans une situation où il y a des causes qui ne seront pas entendues ou qui va avoir des arrêts des procédures relativement au fait que les assignations ne correspondent pas au volume de dossiers.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice et également responsable de la langue française.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Dépôt du rapport de la vérificatrice générale de Montréal cette semaine qui quand même vient, disons, illustrer certaines problématiques à Montréal. On peut penser à la gestion des cônes oranges, des chantiers, donc l'impact sur les citoyens qui se déplacent, également sur les arbres qui sont plantés. Bref, sur l'ensemble de la gestion de la ville dans des programmes spécifiques. Michel Galipeau est avec nous ce matin. Madame Galipeau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Je vais commencer, évidemment, par, appelons ça, là, l'absence d'un plan de coordination des chantiers à Montréal pour rendre la vie la moins compliquée possible pour les automobilistes. Je vais vous poser une question bête, là, peut-être en commençant, mais compte tenu des travaux, là, puis j'inclus tous les travaux, ceux de la ville, le privé, etc., est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut coordonner tout ça pour que ça soit moins dur pour les automobilistes?
En fait, je vais rappeler quand même que seulement 30 % du total des chantiers du territoire sont ceux montréalais. 70 % sont externes. Je vous dirais qu'on a voulu regarder la planification. Est-ce que c'était fait proactivement pour avoir l'ensemble des chantiers? Et ce qu'on a vu, c'est des rôles et responsabilités à clarifier et le manque de communication, effectivement, de tous les chantiers sur le territoire. Et la ville s'est dotée d'axes de mobilité. D'axes de mobilité, ça veut dire des axes sur lesquels on ne veut pas vraiment émettre de permis, sauf pour les urgences. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les arrondissements émettent malgré tout des permis sur ces axes. Vous verrez dans le rapport, on a compté jusqu'à octobre 2021 jusqu'à 6 900 permis sur ces axes de mobilité.
Est-ce que ça veut dire que la ville-centre et les arrondissements ne se parlent pas vraiment sur ces questions-là?
En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la ville-centre, quand on parle de rôle et responsabilité, il faut donner les pouvoirs à la ville-centre d'avoir l'ensemble des chantiers, d'avoir l'ensemble des permis qui sont émis. Il y a aussi une application Info RTU, mais les arrondissements ne mettent pas nécessairement tous les permis qu'ils émettent sur cette application. Donc, ce qui arrive, c'est que le groupe Agir, qui fait une planification sur 2 ans, n'a pas l'entièreté de l'information et est en réaction quand elle apprend qu'il y a des permis qui ont été émis, donc doit recommencer sa planification et dans un temps très court, ce qui fait que bien des projets de la ville ne sont pas livrés.
Qu'est-ce que vous voulez dire, ne sont pas livrés?
Bien, écoutez, si vous planifiez faire, on s'est aperçu qu'il y a près de 25 % là, qui ont été reportés. Ça veut dire si je prévois 80 projets, mais qu'à la fin, j'en réalise seulement 60, parce que si on a émis des permis pour des partenaires, pour le ministère du Transport, mais que ce groupe-là n'avait pas cette information-là, quand on replanifie, bien, c'est les projets de la ville qui sont reportés.
L'automobiliste qui vous écoute ce matin, ce qu'il veut savoir, là, est-ce que c'est possible? Est-ce que la ville peut se donner des outils pour mieux planifier, pour éviter que je me promène dans des détours d'un chantier vers l'autre, qu'il n'y ait pas des bouchons, que le monde se parle puis que tout ne soit pas bloqué en même temps?
En fait, il faut qu'on définisse bien les rôles et responsabilités de tous, qu'on donne toute l'information au groupe Agir pour pouvoir avoir l'ensemble de l'information. Et qu'on on a beau avoir n'importe quelle plateforme, il faut qu'on l'alimente. Et si on fait tout ça, on aura toute l'entièreté des chantiers. Et je parle pas seulement là, des arrondissements, je parle aussi de certains services centraux. On a démontré dans le rapport un dossier pour lequel il y avait une subvention de 11 millions de dollars, mais qu'on n'a pas eu puisque le groupe Agir ne le savait pas. Donc, on n'a pas bien planifié. Donc, on a perdu 11 millions de dollars de subvention pour une subvention de FIMO, un programme pour l'eau.
Je reprends l'image, là, puis ce que ça donne comme impression, c'est que la main droite ne sait pas trop ce que la main gauche fait.
Écoutez, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par ces groupes. Il y a eu aussi des présentations virtuelles pour justement les axes de mobilité, pour démontrer que toutes les demandes passent par ce groupe-là. Et lorsqu'on a fait le mandat, sur les 4 arrondissements qu'on a regardés, il y a 3 arrondissements qui n'étaient pas au courant de ce processus.
Pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est passé avec le programme de plantation des arbres?
En fait, ce qu'on a regardé, c'est plutôt l'entretien.
OK.
Il faut comprendre qu'en 2005, la ville s'est dotée d'une politique de l'arbre et où elle a dit, d'ici 3 ans, je vais faire des plans arboricoles au niveau de l'entretien. Alors, on se retrouve en 2021-22, là, parce qu'il faut comprendre que nos rapports ont été émis quand même le 10 mars 2022, ce rapport-là. Donc, on se retrouve à voir s'il y a des plans arboricoles et ces plans-là ne sont pas en place. Ce qui fait en sorte que les arrondissements se dotent eux-mêmes de plans d'entretien, mais qui sont disparates. Et ce qui fait aussi en sorte qu'on n'a pas non plus de budget dédié pour l'entretien. On peut bien planter, mais il faut entretenir pour conserver.
Mais pourquoi est-ce que vous me dites là, est d'une logique implacable, puis tu dis, mais ils font pas?
Écoutez, moi, je fais un mandat et je regarde si
non,
c'est
je sais.
Fait. Et c'est le résultat que j'obtiens.
Et ce que alors, je comprends, que c'est qu'à Montréal-Nord, 60 % des arbres sont morts parce qu'on les a pas arrosés.
Bien, en fait, on a regardé l'ensemble des éléments d'entretien. Il y avait beaucoup d'informations qu'on n'avait pas parce qu'on n'a pas l'état des arbres. On n'a pas non plus l'ensemble de la canopée, là, l'inventaire de la canopée. Donc, on n'a pas toute l'information. Mais si vous prenez dans le rapport un endroit, on parle d'un bilan qui a été fait par la Société des grands parcs du Mont-Royal et des Sports de 2012 à 2020 sur le nombre d'arbres excluant les boisés. Et on a 100 000 plantations, mais à la fin, au net, avec les abattages, avec les maladies, on se retrouve avec 30 000 arbres. Il faut comprendre que ces arbres-là, c'est 20 à 30 ans pour améliorer la canopée. Donc, pour 100 000 arbres, j'ai 30 000 arbres au net.
En terminant, est-ce que je comprends que vous êtes préoccupé parce que la ville tarde à donner suite à vos recommandations?
Écoutez, ça fait 6 ans que je suis en poste. Ça fait 5 fois que je demande de se doter d'indicateurs pour la mise en place de mes recommandations. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 47,1 de mise en place sur les recommandations dont les plans d'action sont échus. Faut comprendre, c'est ce qu'on a regardé. Et je regarde, cela, j'en ai, bon, on est sûr qu'il y a la pandémie, mais j'en ai quand même 37 qui restent à la fin, au 31 décembre, qui sont déjà en retard par rapport à la date d'échéance. Et les recommandations qui ont été mises en place ont été remises en place, c'est 93,1 qui ont été mises en place avec un retard. Moi, j'émets des recommandations, mais je ne fais pas le plan d'action. Tous les plans d'action passent par la direction générale. Ça m'a été demandé quand je suis entrée en poste et j'ai accepté. Donc, tous ces plans d'action-là, avec ces échéances-là, sont revus par la direction générale.
Merci, Mme Galipeau. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Michèle Galipeau est la vérificatrice générale de la Ville de Montréal. Je me tourne maintenant vers Mme Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif de la Ville, puis donc responsable des finances. Mme Olivier, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Moi, j'ai 2 communiqués devant moi. La vérificatrice demeure préoccupée par les recommandations qui tardent à être appliquées, puis j'ai votre communiqué à vous qui dit « J'accueille les recommandations avec ouverture et intérêt ». Qui ment là-dedans?
Ah, je pense pas qu'il y ait de mensonges dans ce que vous dites là.
Mais là,
Non, je pense que, écoutez, il faut remettre les choses en place. Moi, je pense que la vérificatrice générale fait un travail important. Puis, pour qu'on puisse gérer la ville de façon transparente, c'est un peu notre garde-fou, hein, elle nous dit, faites attention, il y a un problème là. Ce qu'il faut qu'on réalise, c'est qu'elle parle du passé, hein, comme elle vous l'a dit dans son entrevue. Elle a analysé des choses qui arrivent à échéance en 2020, en 2019. Nous, on n'attend pas forcément. On constate les mêmes choses qu'elle.
Attendez, Madame Olivier. Non, je comprends, mais c'est beau d'être proactif, là. Mais la réalité, c'est qu'elle note que dans tous ces processus-là, les recommandations tardent à être appliquées. Les plans sont souvent réalisés après l'échéance. Autrement dit, vous prenez pas ça trop au sérieux.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. En tout cas, je ne le dirais pas comme ça. Ce que je vous dirais, c'est qu'un plan d'action, c'est une intention, c'est une carte. Mais des choses peuvent arriver. On est dans des processus où les ressources ne sont pas infinies. On n'a pas de baguette magique. Quand arrivent certains éléments, parfois, il faut qu'on change un peu le cours des choses. Et j'aimerais aussi saluer le fait que Mme Galipeau dit, à ce moment-là, communiquez-le-moi.
Ce que vous faites pas.
Comme par exemple, je vais vous donner un exemple. On voulait bien faire les plans arboricoles. Est arrivée la grille du frêne. Il a fallu abattre des arbres parce qu'ils étaient malades. Ben, les ressources sont allées là-dessus, en priorité.
Mais est-ce que
ça
ne
veut pas dire qu'on ne fait pas les plans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toujours l'intention de faire les plans. Ça veut juste dire que ça prend du retard.
Dans le rapport, est-ce que je comprends que le programme, par exemple, de plantation d'arbres à Montréal-Nord, il y a 60 % des arbres qui sont décédés parce qu'on les a mal entretenus?
Oui, ça, c'est une responsabilité des arrondissements.
Mais c'est grave. C'est l'argent du monde, ça. C'est épouvantable.
Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ça ne devrait pas se produire. Et ce que ça me dit, moi, c'est qu'il faut qu'on améliore les processus de communication et d'imputabilité entre la ville-centre et les arrondissements.
OK. Là, je vais vous parler des bouchons de circulation, du manque de communication, du manque de coordination entre les différents partenaires de la ville, les différents programmes. Ce que Mme Galipeau me disait, c'est que la main gauche, c'est pas nécessairement ce que la main droite fait. On donne un permis, on n'aurait pas dû le donner. Est-ce que, dans le fond, on rêve en couleur de penser qu'on peut coordonner ce paquet de travaux dans une ville qui en a besoin? Il n'y a personne qui conteste ça, mais qu'on se compte des histoires puis on se fait croire que c'est possible, alors que, dans le fond, c'est trop gros, c'est une trop lourde bureaucratie. Puis on est mieux de dire la vérité aux automobilistes, vous serez toujours mêlés comme ils sont toujours mêlés.
J'espère qu'ils ne seront pas toujours mêlés comme ils sont toujours mêlés, comme vous dites. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un problème qui transcende toutes les administrations. Hein. Je veux dire, ça fait plus d'une décennie à Montréal qu'on a ces problèmes-là, quand on a choisi d'investir dans nos infrastructures, qu'on a choisi de faire des travaux depuis que la relance, on pourrait penser récemment que la relance est quand même bonne, qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions au centre-ville. Il y a là des bonnes nouvelles. Maintenant, vous avez parfaitement raison. Il y a un vrai problème sur lequel on travaille. Nous, on s'était doté en 2020, la ville s'est dotée en 2020 d'un plan de déploiement pour cet exercice de coordination-là de 4 ans. On est à l'année 2. Pour moi, il y a déjà des progrès qui ont été établis. Juste le fait que tous les arrondissements ont accepté de se doter de la même plateforme Agir dont tu parlais. Déjà là, c'est un gros progrès, parce qu'avant, ce n'était pas tous les arrondissements qui étaient dedans.
Ça paraît pas trop, entre vous et moi.
Bien, on est à l'an 2. Hein? On est 2020-2021, on est à l'an 2. Il y a eu la pandémie entre les deux. Il faut qu'on se garde une certaine agilité. Hein? Vous vous souviendrez que l'année dernière, à un moment donné, on avait dit, OK, on donne un répit aux Montréalais sur les travaux.
Non, mais moi, ce que je retiens de Mme Galipeau, là, c'est que les gens n'ont pas toute l'information, donc ne peuvent pas prendre les décisions. Il leur manque des trucs qui, je sais pas, moi, ça vient du secteur privé, ça vient de l'arrondissement. C'est une grosse patente. Puis peut-être que c'est, on peut pas faire autrement. Puis que dans le fond, on dit aux automobilistes, hey, regarde, faut les faire les chantiers, faut les faire les travaux. Ben, malheureusement, tu vas être pris là-dedans. Puis c'est vrai qu'on va être mêlé, puis ça se peut qu'on t'envoie d'un chantier à l'autre. C'est pas de la mauvaise foi, c'est qu'on se parle pas, puis on n'a pas vraiment le temps.
Monsieur Arcand, j'avais l'impression que c'était déjà ça. Qu'on n'a pas vraiment le temps, mais que c'était déjà ça le message, c'est qu'on n'a pas le choix, il y a des travaux.
Non, de faire les travaux, c'est une chose. Moi, je veux une coordination, je veux que le monde se parle. Je veux pas que tous les travaux se fassent en même temps. Je veux pas qu'on rouvre, puis qu'on ferme, puis qu'on rouvre, puis qu'on ferme, qu'on installe un chantier, puis qu'il se passe rien pendant 10 jours, même si on a mis des comptes. C'est ça qui se passe en ville, là.
Mais vous savez qu'on a quand même mis des choses en place. On a mis en place une escouade de la mobilité qui maintenant se promène et patrouille les rues de Montréal.
Okay.
S'il y a des chantiers qui sont pas nécessaires ou des cônes qui sont illégaux, ben ils se chargent de mettre les contraventions, de les enlever. On a la plateforme dont on se parle. On a fait une charte des chantiers avec les partenaires.
Ça, c'est,
ça arrive de moins
beau,
en moins
c'est beau,
qu'on
ça,
ouvre, qu'on ferme, qu'on ouvre, qu'on ferme. Ça arrive plus. C'est arrivé dans le passé, mais on peut pas vraiment dire que c'est arrivé dans les années récentes.
Quelle note vous vous donnez à la Ville de Montréal pour la qualité de l'information transmise aux citoyens et la coordination de l'opération des chantiers? Quelle note vous vous donnez?
Écoutez, comme vous le savez, moi, j'ai été élu récemment. Je vous dirais, quand je regarde les efforts qui sont faits...
Pas les efforts, les résultats. Les résultats.
Les résultats doivent suivre les efforts, monsieur Arcand. Soyons sérieux, là. Ça prend, on n'a pas de baguette magique, hein.
Mais je donne pas une note sur les efforts. Tout le monde fait des efforts. Moi, je veux savoir le résultat. La Ville de Montréal, vous vous donnez combien sur le résultat de la qualité de ce dossier-là?
Mais c'est variable selon les arrondissements. Bon. C'est variable selon les endroits où on se place.
Moi, vous voulez pas me répondre. Ça va être plus simple.
Non, je vous dirai pas que je veux pas vous répondre. Je vous dirai que je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour vous donner une note globale.
Mais vous êtes la présidente du comité exécutif. C'est quand même pas rien.
Effectivement, je suis la présidente du comité exécutif et je peux vous dire qu'on travaille très fort et qu'on redouble d'efforts chaque fois pour améliorer les choses. Mais si je vous donne juste un exemple, en 2018, on avait 53 000 permis qui étaient émis. Cette année, juste depuis le début de l'année, il y en a eu 24 000. Je veux dire, on parle d'un nombre énorme d'informations à coordonner avec une gouvernance qui est celle de la ville qu'on connaît, donc avec des arrondissements qui ont des pouvoirs, avec une ville-centre qui a des pouvoirs. Et moi, je pense que cet exercice-là, il faut se donner les 4 ans qu'on avait estimé qu'il serait nécessaire pour déployer la solution, pour donner une note.
Parfait. Merci, Mme Olivier. Bonne journée.
Je vous en prie, M. Arcand.
Au revoir. Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances. Tout le monde fait des efforts, puis tout le monde est de bonne foi, personne. Mais entre vous et moi, là, attendez pas après ça, là. Ça n'arrivera jamais. Le plan 4 ans, je respecte Mme Olivier, là, elle vient d'arriver, pas de sa faute, là, puis ça n'arrivera jamais. C'est impensable de croire qu'une machine comme celle-là, avec autant de permis, est capable de prévoir. Puis Luc me racontait des trucs hier, là. Fait que c'est une illusion. Fait qu'on va se mettre les deux pieds sur terre ce matin, puis on va se dire, ça va arriver encore, et même très souvent, que tout soit fermé en même temps. Que tu prennes Sherbrooke, Maisonneuve, que tu descendes, puis tout ça va être fermé. Ça devrait pas. C'est pas ça qui est écrit, mais c'est ça pareil. Parce que la main gauche, elle sait pas ce que la main droite fait, puis les deux mains, ben ils serrent jamais souvent les mains. Fait que ça donne ça.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Donc, on parle de ce sondage, entre autres, ce matin, de Léger, qui a été commandé par la CAQ, pas par le gouvernement, mais par le parti politique, sur l'immigration. Et il y a plusieurs données. Retenons que les Québécois ne souhaitent pas vraiment augmenter le nombre d'immigrants au Québec. 50 000, le Parti libéral en voudrait 70 000, le Conseil du patronat 100 000. En gros, les Québécois disent 50 000, ça nous paraît raisonnable. Il y a une crainte qu'un nombre trop grand d'immigrants menace l'identité québécoise, menace la langue française. Je fais le point là-dessus avec le ministre du Travail, de l'Emploi, responsable aussi de l'immigration, Jean Boulay. Monsieur Boulay, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, évidemment, en voyant ces résultats-là, ça vous conforte, j'imagine, dans la mesure où c'est la cible que vous souhaitez, que le gouvernement souhaite, là, 50 000, en disant « c'est ce qui nous apparaît raisonnable ».
Ouais, puis c'est pas mal compatible avec ce que moi je constate en rencontrant les partenaires du marché du travail un peu partout au Québec, dans les régions. Et le 50 000, oui, il faut qu'il soit respectueux de notre capacité d'accueil, puis d'intégration aussi dans les régions. Puis je vous rappellerai, M. Arcan, qu'en 2021, il y a plus d'immigrants, bien sûr, qui se dirigent à Montréal, mais le taux de chômage était de 13,2% chez les immigrants qui sont chez nous depuis de 0 à 5 ans. Donc, il y a beaucoup de travail à faire encore. Je pense qu'on a amélioré nos chiffres, notamment pour les immigrants économiques qui déclarent parler le français. On est passé de 55 à 84 % dans les trois dernières années. Mais donc, les Québécois, ce qu'ils nous disent, 50 000, c'est correct. Notre capacité est limitée, puis il faut la respecter.
Mais en même temps, vous avez le conseil du patronat qui dit il faut faire venir encore plus de monde, 100 000 des immigrants économiques, il faut être capable de répondre aux besoins des entreprises. Les Québécois disent on veut protéger notre langue, on pense que l'immigration nous menace, puis les employeurs disent pas vrai, ça prend du monde pour combler les postes vacants.
Bon, il y a deux choses. L'immigration, c'est une des solutions. Je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est d'améliorer la productivité puis les conditions de travail. On le répète, le rapport de force en pénurie de main-d'œuvre, il favorise les salariés. Donc, c'est pas que les salaires, c'est la conciliation famille-travail, c'est les congés. J'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui donnaient congé un vendredi sur deux, qui aménageaient les espaces de travail pour permettre aux travailleurs de s'entraîner, d'avoir du repos dans une salle qui est bien ventilée avec des fenêtres. Des fois, c'est des détails, mais d'abord, écoutez. Puis deuxièmement, bien sûr, il y a la formation. Puis quand tu formes ton monde, c'est un facteur d'attraction et de rétention de ta main-d'œuvre. Pour les admissions, le 50 000, M. Arcan, je vous rappellerai que nous autres, on émet nos certificats de sélection à Québec entre de un mois à un mois et demi, puis ça prend 30 mois avant qu'ils soient admis par Ottawa. Fait que les 50 000, on n'est pas capable d'atteindre ce niveau d'admission-là par Ottawa parce que c'est un peu chaotique là-bas. Il manque de ressources et notre limite à 50 000, elle n'est pas encore atteinte.
Mais, M. Boulet, vous savez, il y a des gens qui m'écrivent, là, qui sont ici depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui sont toujours en attente d'une reconnaissance, d'un statut, des gens qui ont eu des enfants ici. C'est-à-dire que, et là, vous me donnez l'exemple du fédéral, mais en même temps, ces gens-là me disent, pourquoi il y a des employeurs qui refusent de nous engager? Vous parliez tantôt d'un taux de chômage plus élevé chez les immigrants que chez les gens qui sont nés ici. Comment vous l'expliquez, ce taux de chômage? Une question de compétence, une question de racisme?
Bon, il y a certainement un problème de reconnaissance des compétences, puis j'ai annoncé à Montréal au mois de décembre dernier un projet, en fait, d'application, de reconnaissance des compétences, 130 millions sur 2 ans, où on va permettre d'améliorer l'offre de formation d'appoint. Si une infirmière arrive de la Colombie, elle va accéder à une formation d'appoint rapidement. Si elle n'a pas obtenu son diplôme chez elle, on va lui donner une allocation de 500 $ par semaine pour éviter qu'elle soit dans la précarité financière et pour l'inciter à compléter son diplôme. On va accompagner les employeurs pour bien évaluer les compétences acquises à l'étranger. Mais ça, c'est un enjeu qu'on a depuis longtemps au Québec. Et là, avec ce programme-là de reconnaissance des compétences, on fait un grand pas en avant. Et en plus, on a régionalisé nos services d'immigration. On est partout au Québec. On a des conseillers en immigration, des agents d'aide à l'intégration. On accompagne de façon personnalisée les immigrants. Le taux de chômage, on l'a diminué chez les personnes nouvellement arrivées dans les 3 dernières années. Et là, on va continuer nos efforts. Il faut mieux les intégrer et il faut s'assurer que ces personnes-là aient un emploi qui est compatible avec la formation acquise dans leur pays d'origine.
Là, est-ce que je comprends que vous allez annoncer aujourd'hui un programme pour amener des étudiants étrangers vers les régions du Québec?
Oui, M. Arcan, puisqu'on est tous les deux seuls, c'est confidentiel, je peux vous l'annoncer, oui. Je suis à Rimouski ce matin, puis c'est de quoi de très intéressant pour favoriser l'attraction puis la rétention des étudiants étrangers dans les régions francophones. Je pense que ça va nous aider à relever le défi de la pénurie de main-d'œuvre d'une part, puis deuxièmement, d'assurer la vitalité de la langue, puis les régions attendent, puis le taux de rétention dans les régions, chez les étudiants internationaux, il est très élevé. Puis pour moi, c'est un capital humain dont on ne peut pas se soustraire. C'est vraiment important.
OK. Mais là, vous me dites c'est quoi l'objectif? Vous me dites pas c'est quoi la mesure?
Bien, la mesure, ça va s'exprimer... c'est un incitatif financier. Vous allez voir, là, je peux me rendre jusque-là. Là, ça va avoir un aspect monétaire et ça devrait être bénéfique pour nos collèges, nos universités qui sont dans toutes les régions francophones du Québec.
OK, je comprends l'incitatif financier. Vous allez demander quoi à l'étudiant étranger? En échange de quoi vous lui donnez cet incitatif financier?
Écoutez, M. Arcand, je vais faire l'annonce bientôt, mais vous avez suffisamment d'informations. Là, puis, vous savez qu'il y a des frais de scolarité qui sont différents pour les étudiants internationaux. Donc, ça va être une adaptation, un incitatif qui va s'exprimer par des frais de scolarité qui sont différents. Puis ça va être c'est super attendu par nos collèges et nos universités.
Mais ça veut dire que l'étudiant étranger va s'établir dans ce coin-là, dans une des régions du Québec, là, en échange.
Bien, quand il vient, là, l'étudiant étranger là, qui s'en va à Rimouski, à Trois-Rivières, à Saguenay, et souvent, il se fait un chum ou une blonde, il finit ses études, il commence à travailler, il s'intègre dans la communauté, puis il s'intègre dans le marché de l'emploi. Et ça, pour nous, là, c'est un bassin extrêmement intéressant pour répondre aux besoins concrets des entreprises qui ont des défis de recrutement.
J'aimerais vous entendre, parce que vous êtes le ministre de l'Immigration, mais de la francisation, de l'intégration. Quand on voit dans le sondage, je reviens au sondage, là, que les Québécois considèrent que le danger pour le français vient surtout du nombre important d'immigrants qui ne parlent pas français. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bien, c'est une réalité, puis je l'entends. C'est la raison pour laquelle, dans les trois dernières années, on a augmenté beaucoup nos budgets en francisation. Mais ça, c'est pour les personnes à partir du moment où ils arrivent en sol québécois. On a augmenté le nombre de participants. L'année passée, on a eu 36 000 personnes qui ont fait des cours de francisation en ligne et en présentiel. Ce que j'entends aussi beaucoup des Québécois, c'est que quand on sélectionne, donc quand on émet le certificat de sélection du Québec, que les personnes puissent parler français. Et c'est ce chiffre-là que je vous mentionnais tout à l'heure. Dans les trois dernières années, on est passé de 55 à 84 % des immigrants économiques qui déclaraient parler le français. Puis ça, il faut faire un pas en avant. Donc, à l'arrivée, mais quand ils ne parlent pas français, quand ils arrivent en sol québécois, il faut s'assurer de bien les encadrer. On a augmenté les allocations de participation. On a des professeurs qui contribuent à ça. Puis évidemment, mon collègue, avec son projet de loi 96, il y a le site Francisation Québec, où ça va être beaucoup plus simple. Parce que, M. Arcand, actuellement, il y a des centres de services scolaires, des organismes communautaires, puis il y a le ministère de l'Immigration qui contribue à franciser les immigrants. Et avec Francisation Québec, ça va être un guichet unique.
OK, mais deux questions. La première, est-ce que les Québécois, vous me dites tout ça, là, je comprends, mais est-ce que vous pensez que les Québécois ont raison de se méfier de l'immigrant comme étant la menace à la protection de la langue française?
Bien, il y a une réalité, hein, parce que vous voyez les données démographiques du dernier recensement. Tu sais, 80 % de l'augmentation de la population dans les cinq dernières années provient de l'immigration. Puis entre 2011 et 2021, on est passé de une personne à deux personnes en emploi au Québec qui sont issues de l'immigration. Fait que c'est sûr que ça génère une volonté de la part des Québécois qui se disent par ailleurs extrêmement accueillants envers les immigrants, mais ils souhaitent une intégration, ils souhaitent une harmonisation entre les personnes qui arrivent au Québec et l'adaptation aux valeurs du Québec, à la langue commune. Puis ça, moi, je le comprends, puis je le respecte. Puis dans les régions, c'est un sentiment qui est quand même assez fort.
L'autre question qui est importante, on parle d'immigrants économiques, mais il y a aussi beaucoup de réfugiés à travers tout ça. Je comprends les programmes dont vous me parlez, mais je reçois souvent des messages de proches de gens qui ont immigré, réfugiés, et qui travaillent, et surtout de ce temps-là, là, qui travaillent pour essayer justement de payer le logement qui coûte de plus en plus cher, payer l'épicerie, puis qui disent les cours de français, c'est dur de les intégrer quand on est en train de se battre pour survivre.
Oui, absolument. Puis ça, je le comprends bien. C'est la raison pour laquelle on a augmenté les allocations de participation, puis que Francisation Québec va rendre ça beaucoup plus agile, beaucoup plus efficace. Je suis convaincu qu'en ayant une porte d'entrée unique, ça va nous permettre d'atteindre des meilleurs résultats. Puis je le répète, le nombre de participants est en croissance. Je sais que c'est un défi, mais les entreprises contribuent déjà beaucoup. Hein. J'ai rencontré beaucoup d'employeurs qui me disent, nous, Jean, on fait la francisation à l'interne, on le fait avec nos employés, on fait venir des professeurs de l'externe, que ce soit à Gaspé, à Val-d'Or ou à Trois-Rivières, il y a cette contribution-là de l'ensemble des partenaires du marché du travail. La pénurie de main-d'œuvre, M. Arcan, je le répète souvent, c'est un défi de collectivité. Puis c'est pas que le gouvernement qui va régler ça, c'est l'ensemble de ceux qui sont impliqués. Puis la francisation, faut continuer d'aller de l'avant. Puis la connaissance du français à l'arrivée, là, ça aussi, c'est un élément sur lequel on travaille beaucoup.
Merci, M. Boulay. Bonne journée à vous.
Merci, M. Arcan. À bientôt.
Jean Boulay, le ministre du Travail, de l'Emploi, Solidarité sociale et aussi ministre de l'Immigration.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Parfait. Bon. Madame Brisson est aux anges ce matin puisque sa protégée, Jannick Fournier, a remporté hier la grande finale de l'émission de télé Canada's Got Talent.
All right, here it is. The winner of Canada's Got Talent is Jannick Fournier.
Et j'ai le cœur bleu comme un bleuet ce matin, parce que oui, Jannick Fournier, de Chicoutimi, originaire de Dolbeau-Mistassini, a remporté la grande finale de Canada's Got Talent. Jannick, allô?
Bon matin!
Et comment ça va ce matin? Ça doit être le tourbillon médiatique, ça doit être complètement fou.
C'est en plein ça, c'est complètement fou, c'est extraordinaire, c'est just amazing! Écoute, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
Et parle-nous un petit peu de l'expérience de la finale. Évidemment, ça a été regardé par beaucoup, beaucoup de gens, tellement que le site Internet de City TV a planté parce que les gens voulaient voter pour toi. Comment ça s'est passé pour toi, justement, sur la grande scène?
C'était juste incroyable. Puis en même temps, c'était tellement parfait. Parce que sur scène, je ne sais pas si vous parlez du moment de ma prestation,
ben oui.
Là, mais écoute, moi, d'être sur scène, la production me disait « qu'est-ce que t'aimerais? » Ben, je dis « moi, je veux des musiciens sur scène. » C'était clair dans ma tête. Moi, je suis comme dans ma piscine à la maison à patauger avec mes musiciens fait que qui me permettent ça avec un quatuor à cordes en plus. Et là, ils m'ont dit on te fournit ça. Ben là, c'est le top des tops. Ben, j'étais tellement à l'aise. Puis c'est comme chez nous. Puis je pensais pas au nombre de personnes qui pouvaient écouter. Puis oui, Simon était en avant. Ça, c'est quelque chose. Mais mon fils soit assis en avant avec moi, en avant. C'est que c'est incroyable.
Le beau, Johan qui est allé te rejoindre. D'ailleurs, à la fin, ça a été vraiment un moment très émouvant. D'ailleurs, tu dédiais tes performances à tes enfants, Emma et Johan aussi. Tu as salué les gens du Saguenay, Lac-Saint-Jean et du Québec. Est-ce que tu as dû te sentir aussi quand même très supportée parce qu'il y avait beaucoup d'amour pour toi, on le voyait sur les réseaux sociaux aussi.
Ah, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Tu sais, j'arrive pas à te donner d'autres adjectifs à ma tête, c'est d'autres synonymes. Tu sais, je sentais tout le monde avec moi, vraiment. Puis je le sens quand je vois dans la rue, je le sens dans mes messages, dans mes courriels, dans mes textos, dans la rencontre des gens. Tu sais, les gens, ils me voient puis ils se reconnaissent en moi, c'est ce que j'ai réalisé. Ils me voient, puis c'est « Salut,
Jannick ». Mais je pense qu'au... Ouais, j'allais vous dire, au-delà de votre talent là, qui est exceptionnel, il y a votre histoire aussi qui touche beaucoup les gens, votre parcours, le fait que vous travaillez auprès de gens qui sont en soins palliatifs, votre famille, votre implication, les heures. puis votre tempérament qui est explosif, qui est fantastique, tout ça mis ensemble fait que vous allez chercher l'amour du monde.
Oui, vraiment, vraiment. Et c'est ça, les gens se reconnaissent en moi. J'ai tellement reçu de témoignages, j'en reçois dans la rue, même ici à Niagara Falls, hier, depuis que je suis ici, de rencontrer les gens qui viennent me... Ils pleurent de me voir, peut-être, mais ils me pleurent à raconter leur vécu et tout ça. Puis c'est ce qui me touche beaucoup de recevoir tous ces messages-là.
Là, ouais. Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Là, vous repartez avec un prix de 150 000 $, mais quelle est la suite des choses?
Écoutez, je le réalise pas trop encore. Je vais laisser mes gérants aller vers toutes les demandes et tout ce qui rentre présentement. Prochaine étape, c'est une grosse journée aujourd'hui d'entrevue. Autant anglais, français. Ce soir, un gros steak à manger avec une coupe de vin rouge chez certains. Et un bon dodo, puis reprendre la route pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean demain. Et puis prendre du recul, regarder toutes les demandes qui rentrent, puis évaluer tout ça bien comme il faut à tête reposée. Puis, mais c'est 150 000, 100 000 Air Dreams, Dream Miles, ce qu'ils appelaient eux autres. Là. Et puis un petit tour sur scène à Las Vegas, c'est le top.
Mais justement, est-ce qu'il y a des idées de spectacles? Parce que bon, t'en as fait beaucoup des spectacles là, depuis les dernières années, évidemment, mais là, de créer un album, de vraiment lancer une tournée. Là, les portes s'ouvrent aussi pour le Canada anglais à ce moment-ci. Là.
Oui, oui, c'est vraiment ça. Les demandes sont en ce sens-là. Je sais que mon équipe rencontre des gens demain bien importants. Puis on avait signé aussi avec Universal Music pour ça. Fait que ils donnent comme un 2 mois là, pour tout orienter, tout ça.
Bien, Yannick Fournier, bravo encore. On est vraiment très, très fiers de ta performance. La petite fille de Chicoutimi-Nord est bien fière de toi aussi personnellement. On a beaucoup aimé te suivre. On va continuer de le faire également. Puis on va se laisser justement avec un album que tu as lancé qui est maintenant disponible aussi sur les plateformes numériques, notamment sur Spotify, où on peut entendre ton talent.
Alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone.
Alors, petit échantillon de son talent.
Et voilà, et il y en a encore plein d'autres. Et vous pouvez aller vous abonner sur sa page YouTube également pour suivre, et la page Facebook pour suivre justement la continuité de cette belle carrière de Yannick Fournier.
C'est quand même pas pire parce qu'elle n'avait pas été retenue pour Star Academy puis pour La Voix.
La Voix, entre autres, oui. Puis elle a fait plein de concours et, également. Puis vraiment, c'est dans 2 jours, 50 ans, c'est un beau cadeau pour elle puis elle le mérite amplement.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Hier, une ex-éducatrice, je devrais dire, spécialisée, a été condamnée à 40 mois de prison pour avoir agressé sexuellement un adolescent de 16 ans. Donc, elle avait développé avec lui une relation, mais elle est adulte, elle est formée pour aider des jeunes qui sont vulnérables. Et la Cour a conclu donc qu'elle avait profité de ce statut pour abuser le jeune homme. Maître Caroline Lafleur est la procureure aux poursuites criminelles et pénales dans le dossier. Maître Lafleur, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Peut-être que ce serait bien pour nos auditeurs de nous faire un petit historique de cette histoire-là. Cette relation a commencé comment, puis ça a duré combien de temps?
Oui, donc ça a duré quand même un bon bout de temps. C'était un étudiant qui était à l'école à ce moment-là, effectivement, qui avait des problématiques particulières au niveau de son apprentissage. Il avait besoin là, de techniciens spécialisés qui allaient être avec lui dans la classe. C'est des classes spécialisées, c'était pas des classes normales. Et à ce moment-là, il a rencontré là, l'accusé dans le présent dossier qui était particulièrement attitré à lui. Donc, c'est comme ça que cette relation-là a débuté. Il y a eu une fusion là, qui s'est mise en place parce que ce jeune-là avait des troubles là, au niveau de l'attachement. Alors, ça s'est mis en place. Ils se sont vus parce que le jeune va, pour des problématiques, là, va avoir été mis là, à l'extérieur de l'école. Et c'est à ce moment-là que l'accusé va avoir repris contact avec monsieur. Et là, il va avoir des relations sexuelles qui vont avoir eu lieu là, jusqu'à l'arrestation de madame. Madame va avoir été détenue, remise en liberté, et il y aura eu d'autres relations sexuelles suite à sa remise en liberté.
Est-ce que je comprends que pour elle, elle est en amour avec le jeune en question?
C'est un peu ce qu'elle a dit là, à la cour lorsqu'on a fait les représentations sur sentence. C'était ce qui était un peu particulier. La juge l'a repris dans sa décision. Elle essaie que elle voyait un peu aujourd'hui, là, c'était mieux. Elle voyait que sa situation là n'était pas celle qu'elle devait avoir avec le jeune, mais elle avait quand même ce discours-là où, à l'époque, elle se voyait comme en couple et amoureuse de ce jeune-là, effectivement.
Puis, sauf erreur, elle a cité Céline Dion, Renan Angélil comme étant un espèce de comparatif, là.
Effectivement. Et M. Macron et sa conjointe aussi, là.
Et le jeune dans tout ça, parlons de lui. D'abord, la plainte est arrivée de quelle façon? Je ne veux pas le détail, là, mais ça vient...
Non, c'est ça. Effectivement, il y a eu une plainte, il y a eu une dénonciation qui a été faite au corps policier. À ce moment-là, ce jeune-là a été rencontré, a collaboré là, avec les corps policiers, a témoigné au stade de l'enquête préliminaire. Alors, c'est un jeune là, qui a coopéré avec nous. Vous comprendrez qu'il y a des ordonnances de non-publication. Là,
oui,
donc,
oui.
C'est un peu limité dans ce que je peux dire, mais effectivement, là, il a collaboré avec le système.
Mais moi, ma question, c'est est-ce que ce jeune-là, lui, se sentait en amour? Est-ce qu'il est déçu de voir que cette relation-là n'est pas possible? Est-ce qu'il est soulagé d'être sorti de ça? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
Bien, c'est ce qui est particulier avec ces dossiers-là quand on fait affaire avec des adolescents. Je pense que c'est ce qui est important et c'est ce que la juge a repris dans sa décision. Ces chefs d'accusation-là existent justement pour protéger les adolescents. Hein? Sont vulnérables, ils ont des caractéristiques particulières. Alors, effectivement, des fois, il peut y avoir une distorsion. Et c'est pour ça que c'est criminel, parce que l'adulte est en mesure de voir des choses que le jeune n'est pas en mesure de voir.
Je pose une question légale, puis j'ai hâte de voir. Là, le jeune, est-ce qu'il est rendu adulte?
Oui.
Est-ce que, théoriquement, après sa sortie de prison, Mme Rioux pourrait développer une relation avec ce jeune-là?
Bien, on pourrait. C'est du cas par cas, là. C'est effectivement du cas par cas. Il y a cependant des mécanismes juridiques où on pourrait dire que sur une agression sexuelle, un article 271, que nous, on appelle, mm-hmm. où ce lien-là d'autorité s'est poursuivi dans le temps. Moi, ça m'est arrivé dans un dossier où ce qui est arrivé. Le jeune avait commencé à avoir une relation à 16 ans. Il était rendu à 19 ans. Et on avait plaidé que cette relation-là s'était continuée dans le temps et cette espèce de pouvoir-là et de manipulation-là, même si le jeune était rendu un adulte, était toujours présent et cette personne-là avait été trouvée coupable. Donc oui, c'est quelque chose qui pourrait, c'est hypothétique, là, on parle, mais
oui,
c'est quelque chose qui pourrait légalement se passer.
OK, parce que c'est important ce cas-là, dans la mesure où d'abord, souvent on a des cas d'hommes qui agressent des jeunes filles, des jeunes garçons, de voir une femme qui a utilisé son statut, son pouvoir sur un jeune homme pour obtenir à son tour des échanges sexuels, ça se termine par une peine de 40 mois de prison. Deux questions. Des cas rares, mais c'est pas un cas unique non plus, là.
Pas un cas unique, effectivement. J'étais la procureure, là, il y a à peu près 8 ans dans le dossier de Tania Pontbriand, là, qui était aussi un dossier qui a été médiatisé et qui était justement, là, un dossier où c'était une enseignante. Alors, c'est plus rare, mais effectivement, j'en ai parlé aussi, la juge l'a repris dans sa décision. La poursuite va se baser de la même façon, là, pour la peine qu'elle va demander, que ce soit une enseignante ou un enseignant. Là. Mais effectivement, c'est plus rare, donc c'est plus particulier.
Et 40 mois de prison, on pourrait qualifier cette peine-là de quelle façon? Dans la moyenne, plus sévère ou?
Bien, je pense que le message de la Cour suprême, là, l'arrêt sous les yeux, c'est un arrêt fort là, qui a été rendu en 2020 au niveau des crimes à caractère sexuel pour les enfants. Je crois que le message a été entendu par les tribunaux. Là, on peut voir qu'il y a définitivement une hausse au niveau là, des sentences pour ces crimes-là. Les facteurs de dénonciation et de situation vont primer par rapport aux facteurs personnels qui sont pris en considération, mais qui, qui seront pas là, ce qui va prendre l'avant-plan.
Parfait. Merci beaucoup, Maître Lafleur. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir. Maître Caroline Lafleur est procureure aux poursuites criminelles et pénales. Et c'est elle, donc, qui a plaidé dans ce dossier.
L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.